Bienvenue dans Entreprendre dans la mode, le podcast des entrepreneurs et des acteurs de la mode. Je suis Adrien Garcia, designer et fondateur de la marque de vêtements Réunis. Chaque semaine, je vais à la rencontre d'une personnalité du monde de la mode pour comprendre son parcours, ses problématiques et ses stratégies pour innover et se développer. Avec ce podcast, je souhaite recueillir et partager des conseils pratiques et des idées neuves pour se lancer et réussir dans la mode. Entreprendre dans la mode, c'est aussi une newsletter dans laquelle je partage chaque vendredi des actus, des découvertes et les derniers épisodes du podcast. Inscrivez-vous sur www.entreprendredanslamode.com. Le podcast est disponible sur toutes les plateformes, alors pensez à vous abonner et surtout, bonne écoute. Juste avant de commencer l'épisode, je vous informe que cet épisode est réalisé en collaboration avec ADC, Au-delà du cuir. C'est l'incubateur d'entreprise de la filière cuir. ADC est au cœur de l'écosystème de la mode et il ouvre aux entrepreneurs les portes nécessaires pour développer leur concept. Marques de chaussures, de maroquinerie ou projets innovants autour de la matière cuir, des méthodes de fabrication ou de distribution, ADC est la porte d'entrée pour ces projets. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Entreprendre dans la mode. Je suis aujourd'hui avec Maria Lai, elle est la fondatrice de Toasties. Hello Maria.
Hello Adrian. Bonjour.
Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît?
Oui. Bon, je m'appelle Maria Lai, j'ai 31 ans et j'ai créé Toasties, ma marque, en 2016. Donc, ce sont des accessoires en 100% polonais.
Très bien. Et ma deuxième question, en général, tu la connais déjà, je crois, c'est est-ce que tu pourrais reprendre ton parcours depuis ta plus tendre enfance, si tu penses que c'est nécessaire? Mais je pense que c'est intéressant quand même, parce que tu n'es pas française, tu viens d'assez loin, donc ce serait cool que tu nous expliques un peu tout ton cheminement jusqu'à la création de Toasties, et puis on va rentrer dans le vif du sujet au fur et à mesure.
Oui. Alors, bon, c'est... Je vais, pour être honnête, je vais pas parler de mon parcours, mais surtout de ce qu'est-ce que ma famille et mes parents m'ont transmis. Et ce sont les valeurs. Et ce sont les valeurs qui portent ma marque aujourd'hui.
D'accord.
Je savais pas exactement que quand j'ai créé mon marque, que tout ça, ça va devenir hyper naturellement. Mais c'est vrai que ma grand-mère, elle a toujours fabriqué des choses et aussi tellement pratiques aussi, des costumes, des robes. Mon père aussi, c'est quelqu'un qui a toujours recyclé tout. Il avait une alimentaire assez très saine et bio. Et dans la maison, donc il a réparé absolument tout. Et si quelque chose a cassé, il a gardé, il a réparé, il a utilisé aussi des pièces pour faire d'autres choses. Ouais. C'était un peu un collecteur. Et peut-être aujourd'hui, c'est aussi quelque chose un peu vie durable. Mais pour moi, c'était normal. C'était juste comme ça que je suis grandi.
Ouais, c'est vrai que finalement, aujourd'hui, on dit que voilà, on fait de la récup, c'est bien, etc. Mais en fait, c'est ce que les gens ont toujours fait depuis toujours, en tout cas.
Oui, après la guerre et
puis... Ouais, mes grands-parents et tout, ils ont toujours fonctionné comme ça, quoi.
Exact, oui. Et aussi, je pense, tout ça, en plus, dans un environnement très proche à la nature. On a toujours cultivé un peu on a eu des légumes, on a eu des fruits. Et aussi des poules avec des œufs frais. Donc, on a eu un compost et on a récupéré tout le temps. Voilà, donc je pense que c'est quelque chose de très sain et naturel. Et ouais, c'est vrai que j'ai jamais pensé que tout ça va être un peu la raison aussi pour peut-être Toasties. Ce sont des raisons pour et des valeurs qui reviennent toujours.
Mais tu veux pas revenir tout à fait sur ton parcours, mais je trouve que c'est important de dire que là tu l'expliques très bien, mais que tu viens d'Australie, que tu as grandi en Australie reparle-nous un petit peu de ça quand même. Parce que moi j'aime bien savoir d'où viennent les gens et comprendre leur cheminement, parce que Moi, je suis né en France. Enfin, ça, tu l'as pas compris. Mais quand on est en Australie, j'imagine qu'on a des billets qui sont un petit peu différents. J'ai l'impression que l'Australie, quand on est en Australie, on est en contact tout le temps avec la nature. On grandit dans la nature. C'est un pays qui est immense. Donc, les perspectives sont très différentes. En même temps, on est très loin du reste de l'Occident. On est très en connexion avec l'Asie, j'ai l'impression. Parle-moi de tout ça, quand même.
Oui. Non, mais c'est vrai qui est d'avoir un double culture. Donc, je suis grecque. Hein, mes parents sont toutes les deux grecques.
Ah ouais, d'accord.
Mais je suis grandie en Australie.
Mais ceux qui sont partis en Grèce.
Ouais, ou c'est mes grands-parents qui sont partis de la Grèce en Australie pour une nouvelle vie. Et c'est vrai d'avoir un héritage multicultural très fort. C'est... J'ai eu cette double culture.
Et ouais, parce qu'en plus, t'es souvent venu en Grèce voir la famille.
Oui, aussi. Ouais. Australie, ouais, j'ai grandi dans une manière très sauvage, on va dire. Et beaucoup de soleil avec des plages incroyables, beaucoup de places, beaucoup de couleurs. Vraiment, c'était une vie aussi pour moi simple. Hein. Je rends compte aussi maintenant comment j'ai grandi vraiment avec beaucoup de simplicité et la chance d'avoir toujours la nature et ça, une belle famille.
Ouais. Voilà, c'était... Ça veut dire quoi, une vie simple?
Simple, bah, je reviens encore de ce façon de... on n'a jamais fait des choses en extrême. C'était... toujours minimal, voilà. J'ai un frère et j'ai une petite. J'ai ma mère qui cuisinait. Ils ont des travaux. Ma mère, elle était prof et mon père, elle était dans l'agriculture. Et voilà, une jardin. On a vu des amis le week-end. Enfin, c'était juste.
La vie simple.
De vie simple.
Simple life.
Ouais. Yeah, simple life and happy life.
Ouais,
happy
life. Famille, amis et on se retrouve autour d'un déjeuner.
Voilà, on a vu nos grands-parents le week-end.
Ouais.
C'est...
Good life, quoi.
Yeah, ouais. Voilà.
D'accord. Et alors, explique-nous un petit peu comment ce cheminement vers la mode, comment t'es tombé dans la mode, t'as fait quoi comme études supérieures et qu'est-ce qui t'a amené en France finalement? Parce que c'est quand même la grande question qu'on se pose tous.
Ouais. C'est vrai que je suis toujours tournée vers les magasins second-hand pour m'habiller.
Ouais, passion second-hand.
Oui, et c'était encore normal parce que j'ai voulu de réutiliser des choses et aussi peut-être de changer. Finalement, c'était aussi une pièce unique.
Puis ça a plus de charme quand même.
Plus de charme. J'aimais aussi bien d'être différent et habillé différent que les autres.
Ouais. C'est vrai que enfin... Je dis ça juste comme ça, parce que vous ne voyez pas Maria là. Mais Maria, c'est pas la première fois que je la rencontre. Et à chaque fois, elle est assez stylée quand même. Hein. Bon, tu travailles dans la mode, mais en tout cas, tu sens qu'il y a une recherche à chaque fois bien spécifique avec un mix de pièces vintage et de pièces nouvelles qui sont assez intéressantes. Donc, c'est quelque chose que tu as en toi depuis très longtemps et que tu le cultives, ce truc-là.
Oui, je pense. Hein. J'aime bien les pièces... des real stables, comment
des pièces fortes, des classiques, des grands classiques,
des salopettes,
des archétypes.
Yes,
exactement.
Oui, j'ai eu cette passion pour m'habiller avec des vintage, des second hand clothes.
Ouais.
Et comment ça s'est arrivé tout en fait? J'ai terminé mon lycée et mes parents, ils avaient quand même des aspirations pour moi. Ils voulaient que je fasse quelque chose quand même classique et sérieux.
Comme quoi? Qu'est-ce qui est classique et sérieux pour un Australien?
D'aller simplement à l'université. Ouais. C'était
apprendre un vrai métier.
Voilà. Et mes parents, ils n'ont pas ça. Ils ont une éducation comme ça. Donc, c'était normal aussi que leurs filles, ils font pareil. Et donc, je me suis inscrite dans une université de psychologie. mais j'étais pas très heureuse. J'ai terminé mon premier année, j'ai passé, je l'ai eu. Mais j'étais vraiment très envie de créer. La mode, il m'attirait. Et mes parents, ils sont enfin acceptés.
Ah.
Du coup, j'ai...
Comment tu as réussi à les convaincre?
Je pense qu'ils savaient. Ils ne voulaient pas...
Se l'avouer.
Ouais, mais ils ont vu que j'ai passé beaucoup de temps sur ma machine et que j'ai traîné dans... J'ai acheté des matières et... Voilà, après un an, j'ai vraiment fait cette première année aussi pour eux, pour leur montrer. Et ils ont dit, OK, si vous n'aimez pas la fin de la première année, tu peux changer. Donc voilà, c'était ce moment-là. Du coup, j'ai inscrit dans une école de mode. Et en même temps, en fait, la première année, donc de cette école, je suis partie en voyage avec ma famille. Pour les premières fois, et je suis partie en Grèce, donc de voir des familles, et aussi en France. Et c'était vraiment la première fois en Europe que nous avons parti ensemble, et j'ai eu énormément des inspirations. C'est pour une Australienne, c'est beaucoup de culture, c'est voilà, c'est France aussi pour moi, c'est un pays des lumières. Il y a eu tellement des inspirations dans la rue et la culture partout, des musées. On n'a pas tout ça en Australie. Non, on nourrit nous en Australie avec beaucoup des artistes. Un designer et tout de l'Europe. Aussi, on a nos propres, bien sûr, artistes. Il y a beaucoup, mais on est un pays très jeune. Donc, aussi, c'est normal à la fois. Voilà. Je ne sais pas si j'arrive de répondre à tes questions, Adrien, mais c'est vrai que je suis inspirée. Voilà, par Pablo, Picasso, par Matisse, enfin, des artistes aussi qui vous êtes inspirés, mais ils viennent de...
De la Méditerranée, ouais, c'est méditerranéen.
Exact, oui. Voilà, donc je suis partie donc, avec ma famille en Europe, et en rentrant, donc, je termine le cours de l'école de mode. Deux ans et demi, c'était. Et à la fin... de ma scolaire, j'ai eu la chance d'obtenir un scholarship.
Ouais.
Une étudiante, en fait, a eu la chance d'avoir ce prix et j'ai gagné. Donc, j'ai eu vraiment beaucoup de chance, mais j'étais vraiment aussi très envie de l'avoir parce que c'était une opportunité d'avoir un an donc en Europe. Donc, soit... De travailler pour une autre marque ou soit de continuer mes études.
Et qu'est-ce que t'as choisi, toi ?
Et donc, en fait, c'est vrai que c'est compliqué quand tu parles absolument pas de langue. Et c'était évident pour moi la France. Et pourquoi Paris ? J'avais rencontré aussi une Parisienne en Australie quand j'avais 16 ans. Et on a resté très proches. Et c'était, je pense, une autre raison pourquoi j'ai choisi Paris, parce que j'ai eu cet ami et aussi une famille, une canopée, enfin, une famille qui était là et qui était très accueillante pour moi. Donc, j'ai choisi Paris. Et j'ai cette copine, cette amie qui était parisienne, qui était là et qui m'accueillait. La langue était tellement... j'ai eu absolument pas de français, mais j'ai voulu ce challenge. I really wanted this challenge. Mais vous pensez... Vous savez pas comment c'est beau aussi cette langue, parce que vous êtes française, mais c'est... Il y a une musique dans la langue et ça m'attirait beaucoup. Donc, Je suis inscrite dans une école de mode qui s'appelle Mode Art International. Et j'ai terminé, donc j'ai fait mon dernière année là. Et
Mode Art, il faut quand même dire qu'il y a quand même pas mal de gens qui sont sortis de là-bas. Hein. C'est une super école. Hein. Il y a Amélie Pichard qui est sortie de Mode Art.
C'est vrai.
Il y a aussi les gars de Copernic qui sont sortis de Mode Art.
Ouais, c'est une bonne école. Et j'ai fait juste mon dernière année, mais c'était bien aussi parce que avant de faire cette école, pardon, on n'a pas parlé, mais comment à un moment j'apprends un peu de français, je me suis réalisée par j'étais une jeune fille au pair pendant 6 mois et j'ai appris comme un enfant à parler français.
D'accord.
Donc mot par mot.
Et t'as trouvé où cette famille au pair?
Près de Grenoble. Et sur une montagne près de Grenoble. Et 3 enfants, j'ai occupé. C'était
sportif.
C'était sportif. J'ai utilisé beaucoup mes mains pour exprimer. Mais c'est vrai que ça me donnait aussi une base, on va dire, pour ensuite commencer Mode Art école.
Très bien. Et donc là, tu fais donc Mode Art. Ça dure 1 an. Et qu'est-ce qui se passe après Mode Art? Tu commences, tu fais un premier stage, j'imagine? Ou tu commences à travailler tout de suite?
Non, j'ai commencé par une stage. Une marque qui n'existe plus maintenant. Et ensuite, j'ai fait les coutures au Jamin Poèche, une marque de sacs brodés. Ensuite, je raconte une femme, l'ex-styliste de Joseph, Camille Serra, qui m'a beaucoup inspirée.
Tellement cool.
Et on a travaillé ensemble pendant 3 ans, je pense. J'étais une assistante, donc styliste de cette femme. Et on a fait des choses vraiment très diverses. On a travaillé les cachemires, on a travaillé du tissu. Enfin, pour les collaborations un peu en Japon, pour les team bakers, en Chine aussi. Voilà, c'était vraiment intéressant et j'ai appris énormément.
Trop bien.
Et c'est là où j'arrive chez Inès et Maréchal comme assistante styliste. Inès et Maréchal, donc la marque de cuir et fourrure à la base, des manteaux. Et donc j'ai fait, et c'est là où j'ai commencé à récupérer des chutes, des peaux, pour en faire des semelles parce que j'avais foire aux pieds. J'ai traîné beaucoup dans mon travail, c'était de rester dans les ateliers, d'aller voir les artisans et de travailler avec eux, développer des nouveaux finitions, des nouveaux choses. Et j'ai vu, en fait, énormément des chutes qui restaient par terre. Et c'est ça qui me donnait, j'y reviens encore, mais cette idée toujours de récupérer quelque chose, qu'est-ce que je peux faire avec? Et c'était assez incroyable, cette histoire, en fait, parce que qu'est-ce que tu fais après? Donc, c'était un hobby au début. J'ai fait pour moi parce que j'ai foire au pied. Et après, lentement, il y a des amis qui ont noté que j'ai eu des couleurs, des morceaux de polonais dans mes baskets. Ils ont demandé, bon, j'aimerais bien un aussi. Moi, j'avais un père aussi, j'ai foire au pied. Et vraiment, ça s'est commencé comme ça. J'ai vraiment pas pensé de Toasties au début.
Et c'était juste... en quelle année, ça, t'as eu cette idée lumineuse?
Je pense 2015. D'accord.
C'était l'hiver 2015.
Oui, donc j'étais assistante styliste chez Inès Maréchal et en même temps, j'ai travaillé un petit peu chez Majestic Filetio aussi.
Et il me semble que t'avais un job aussi dans un restaurant?
Oui, j'ai aussi, le soir, j'ai travaillé 2-3 soirs par semaine chez Le Galopin. C'était un très bon restaurant. C'est le premier gagnant de la Top Chef.
D'accord. Okay.
Et ça, c'était juste pour un peu plus de pocket money. Mais comment ça s'est passé à partir d'un bout de
Polonais,
des Polonais dans mes baskets. En fait, je pense comme plusieurs marques, comme beaucoup de marques, je pense que c'est fait aussi par récompte et des gens qui sont juste mis sur mon chemin. Ouais. Il y a bien donc l'ex-styliste Joseph, il y a aussi Inès et Maréchal, et puis aussi mon mari à l'époque habitait donc au-dessus d'un atelier à Belleville.
Mmh. Ton mari? Non, c'est ton copain.
C'est mon mari maintenant, mais c'était mon copain à l'époque.
D'accord.
Et il habitait au-dessus en fait d'un atelier. Et donc, quand je suis allée chez lui, j'ai découvert ce atelier en bas. Et un jour, donc, j'ai noté qu'il y a du cuir, des morceaux de cuir qui sortent de la fenêtre et tout. Et un jour, j'ai frappé à la porte et j'ai rencontré Elko, cet homme. Et c'était vraiment une rencontre parce qu'on puisse créer aujourd'hui... Lui, il a vraiment ouvert son atelier à moi. Mmh. Et ensemble, il m'a appris tellement de choses. Ouais. Et aujourd'hui, il est toujours là et on crée des choses ensemble.
Ouais.
Donc, ouais, ça s'est commencé comme ça.
D'accord.
Donc, aussi, pourquoi c'est Born in Belleville et c'est cet atelier-là à Belleville. Donc, j'ai apporté des prototypes. Et elle lui m'a aidé en fait de réaliser, et c'était aussi un découvert ensemble puisqu'il a inventé des nouvelles techniques et les coupes, et j'ai appris aussi le caractère de la peau. On pense tous c'est peau de mouton, c'est une monomatière, tu sais, pareil, c'est pas pareil, comme c'est naturel, chaque peau est unique. Et je pense que c'est ça qu'est-ce que j'aimais aussi dans ce matière, c'est que chacun était unique. Comme chaque pièce de second-hand vêtements était unique. Il y a eu quelque chose de très riche et j'aimais bien ce challenge qu'il fallait en fait analyser le pot et comprendre le pot et voir. Il m'a appris comment la lumière il touche en fait la laine pour ensuite couper la banane, par exemple. On ne pose pas juste une patron comme sur le tissu et on coupe.
Mmh.
On analyse, on comprend le caractère de la laine et la taille. Et c'est très mathématique. Et ensuite, on coupe. On coupe qu'on est sûr que c'est la plus jolie façon.
D'accord.
Et tu sais, ce process, en fait, j'ai appris... j'ai traîné là-bas pour comprendre des choses. C'était pas pour faire une marque au début, mais juste j'ai voulu de regarder comment ils ont coupé. Ils ont travaillé pour des marques de luxe, pour Hermès, pour Chanel, pour plusieurs grandes marques. Et je pense que j'étais aussi fière de moi que j'ai trouvé cet atelier toute seule.
Ouais.
Pas grâce à des autres marques et pour qui j'ai travaillé.
Et dis-moi, comment on arrive à se faire accepter dans un atelier comme ça? Parce que c'est quand même pas si simple. Le gars, il t'a ouvert les portes de façon très généreuse.
Oui.
D'après toi, pourquoi il t'a ouvert la porte?
Il est d'origine turque.
D'accord.
Et je pense aussi, il a une autre... il est quelqu'un ouvert, et je pense aussi peut-être dans son culture aussi c'est comme ça, il travaille avec la porte ouverte, et oui, c'est juste quelqu'un qui avec un grand cœur. Mm-hmm. Et quelqu'un, je pense, qui donne aussi l'opportunité à des gens. Il a vu l'envie que j'ai eue aussi. Je pense qu'il a vu que j'ai eu quelque chose. Et il m'a compris, enfin. Il m'a compris. Il y a d'autres que j'ai vu des ateliers qui fermaient les portes devant moi. C'est tout le temps, ça m'arrivait, tout le temps. Ils n'ont pas le temps. Ou qu'est-ce qu'ils vont faire avec une jeune qui veut faire 2-3 petits produits? Comment tu peux avancer? Mais ce mec, il est ouvert. Et c'est aussi une autre raison.
Mais c'est exceptionnel, parce que c'est vrai que c'est assez rare, hein. Bravo.
Oui.
Comment il s'appelle exactement?
Elko.
Elko.
Yeah. Voilà, une rencontre m'a amené à une autre, et tout arrivait assez naturellement. Finalement, je me suis fait des contacts, je pense, avec qui m'entendait bien, avec qui je m'entendais bien. Mmh. Et donc, à chaque fois, j'ai demandé des conseils ou aide de façon, je pense, façon assez naïve. Finalement, les gens, ils m'ont toujours répondu oui. Et donc, voilà, après les semelles, donc, donc j'ai amené cette idée donc à cet atelier avec des semelles et j'ai fait la première semelle avec une couture avec du denim et j'ai testé en fait avec des amis et ils me disent tous bah ça marche, on a plus foire aux pieds et par contre le denim ça glisse dans les chaussures.
Ça va donc, au fond de la chaussure.
Oui, donc il faut penser de quelque chose d'autre. Donc, j'ai étudié beaucoup cette idée et je me suis dit, bah, il faut quelque chose un peu dur. Et j'ai voulu rester avec une matière naturelle. Et c'est pour ça que j'ai choisi du liège. J'ai trouvé un fournisseur de liège. J'ai commencé j'ai voulu de faire un produit qui pouvait être décopable.
Ajustable en fonction de la taille, quoi.
Exactement. Pour que moi, je ne fabrique pas toutes les tailles et que j'ai un énorme stock.
Bah oui.
Mais aussi que le client peut aussi avoir cette simplicité. En fait, il n'a pas besoin de savoir quelle taille il faut acheter. Voilà, c'était plus simple. Je pense qu'il y a aussi les gens, ils aiment bien, tu vois, de prendre un paire de ciseaux ou
Ils participent à la création du produit, finalement.
Oui. Ouais. Et c'est ça qu'est-ce que j'ai voulu de réaliser. Donc, j'ai repris cette idée de patron de découper les semelles pour différentes tailles. Et j'ai fait une sérigraphie sur la liège. Je suis ensuite contre-collée dans l'atelier à Belleville avec l'école. Et ensuite, j'ai développé les emporte-pièces pour couper toutes en même temps, pour avoir une jolie finish, pour avoir une coupe clean,
oui.
À propre
bien sûr.
Côté. Mais tout ça, ça me prend beaucoup de temps. Donc je pense...
Ça t'a pris combien de temps en tout, ça?
Début 2015, peut-être, ça me prend presque un an, je pense.
De mettre au point le produit.
Oui,
en fait.
Or three quarters of a year.
Mais là, à ce moment-là, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe? Tu te dis, je tiens quelque chose, les gens, ils aiment ce produit, je vais monter ma petite entreprise. T'as déjà cette idée de dire, je vais entreprendre et I'm gonna start a business?
Encore pas. Je pense, c'est pour moi, j'ai voulu ce challenge de me prouver que je peux arriver avec un produit qui répond à mes besoins. Donc, un produit fonctionnel qui est aussi un peu design à la fois. Et un peu sympa et cool parce qu'on a tous des paires de semelles en mouton, on peut acheter dans les campagnes partout. Mais voilà, j'ai voulu juste créer quelque chose de simple, de beau, de confortable et qui réponde aussi à mes besoins. Donc, j'ai continué sans savoir, sans savoir est-ce que je vais créer une marque. Mais je voulais juste terminer ces prototypes. Je voulais avoir une paire de semelles finies à mon idée. Et puis après, je vais voir qu'est-ce que je vais faire avec. Donc, je termine le produit. À ce moment-là, je travaille toujours à Majestic et je pense, Inès et Maréchal, non, mais à Majestic. Je décide à ce moment-là et je dois voir si ça plaît autour de gens. Donc déjà il y a des copains, des amis qui sont pris et qui ont testé et qui ont aimé. Mais après des amis, ils sont très gentils.
Ouais,
ils disent toujours qu'ils aiment, ils sont bien.
Ouais.
Et j'ai eu un ami donc Xavier de Easy Peasy qui J'ai approché à lui et je lui demandais s'il peut partager des contacts avec moi pour ensuite mettre les premières paires de semelles, peut-être de tester avec un magasin, une boutique.
Easy Peasy, c'est des vêtements pour enfants, hein, c'est ça?
Non, c'est des lunettes.
Ah, c'est des lunettes, pardon.
Oui, okay. C'est des lunettes stylées. Ouais.
Ok.
Donc pas cher et super cool.
Très bien.
Et donc, Xavier, il me passait le contact de Cuisse et Grenouille.
Ouais.
L'équipe Cuisse et Grenouille et aussi Bon Marché. Donc, il a écrit. Donc, premièrement, j'ai demandé à Cuisse et Grenouille parce que je peux avoir un rendez-vous. J'ai un produit pour vous montrer. Ils ont aimé bien. Ils ont mis dans les boutiques et quelques jours après, ils avaient tout presque vendu.
Yeah.
Donc, est-ce qu'on peut avoir plus? Et ça, c'était le premier test. Je pense que c'était la fin 2016. Ensuite, Bon Marché, il m'avait écrit une email avec voilà, présentation de Toasties. Et l'acheteuse de le Bon Marché pour la galerie imaginaire, donc pour la période de Noël, le pop-up, et ça leur a beaucoup plu. Et elle me demandait donc il voulait que j'ai eu un stand aux galeries imaginaires pour le Noël. Donc ça aussi c'était très très excitant. Et avant tout ça, parce que là, je suis déjà à mon premier Noël avec des produits semelles. Mais avant tout ça, en septembre, j'ai inscrit dans la première salon, première classe, avec les semelles. Je pense que j'ai lu bien une grande partie de l'histoire, mais il y a aussi les pochettes et les moufles et les couvre-selles de vélo qui on a tous réalisé dans l'atelier Belleville. Et avec ces quatre produits, parce que j'ai réalisé, je ne peux pas vendre que des paires de semelles.
Ouais.
Donc,
j'ai obligé. Raconter une histoire. Ouais. Il faut faire d'autres choses.
Je voulais de montrer, de créer une famille Toasties. Donc, j'ai ces quatre produits. J'ai inscrit un jour avant la salon première classe. Et j'ai la chance d'avoir une grande, grande place. Et je présente les produits. Et ça s'est très bien passé. J'ai eu plein de commandes. Je ne savais pas comment ça se passait, un line sheet, je connaissais vraiment zéro. J'ai eu des amis que j'ai appelés pour venir m'aider sur le salon. Vraiment, il y a eu des gens des acheteurs qui ont laissé des chèques et tout, j'ai halluciné.
Ouais.
Tu vois, c'était...
Il se passait quoi dans ta tête là? C'était quand même le dream come true, non?
Ça marche,
ouais.
J'ai eu
cette révélation, quoi. Ouais.
Yeah, I was so excited that it was working and that people liked it.
Ouais,
and
en
that
français.
Et que les gens, ils aimaient. Et c'est, pour moi, c'était aussi... je voulais aussi que c'est la joie aux gens.
Ouais.
Qu'ils ont arrêté, ils ont dit « Waouh, les couleurs !» Et surtout, c'est sympa, on peut vendre ça pour Noël et tout. Donc ça c'était une première clic. Et après, donc à ce salon, Bon Marché, ils sont passés, ils ont revu les produits en vrai. Et donc, ils m'expliquaient qu'est-ce qu'ils voulaient aussi pour ce Noël, pour le Galerie Imaginaire.
Et donc, là, tu dois être comme une dingue, non?
Comme une dingue. Donc, je travaille toujours trois jours par semaine. Mon bureau, il est à la maison. Donc, j'ai des semelles contrecollées partout dans la maison. Donc, dans tout l'espace, dans les salons et tout, parce qu'il faut commencer de produire pour toutes ces commandes.
Parce que là, on te demande en plus beaucoup quand même. Parce que c'est des grosses quantités, je m'en rends pas compte.
Ouais, c'était des grosses quantités. Hein. J'ai eu plusieurs clients japonaises. Et quand ils commandent aussi, ils commandent assez fortes.
Ouais, mais donc, c'est quoi? C'est genre 100, 200, 300?
Oui, j'ai eu des commandes de 200 paires de semelles.
Wow.
Et à ce moment-là, on a fait tout vraiment nous-mêmes. Donc, c'était vraiment cool. Mais je ne savais pas aussi qu'est-ce que je devais faire? Enfin, il faut faire des commandes, il faut faire des préformats, il faut faire quelque chose de sérieux et professionnel, avoir une vraie email sans @gmail.com, plusieurs choses de mettre en place. Donc, je commence à produire, je commence à traiter, commandes. Et j'arrive de livrer en début novembre pour Noël. J'arrive de livrer mes clients, mes premières, je pense, 15 clients. J'ai aussi Bon Marché qui commence en même temps. Et donc, j'ai eu besoin d'avoir suffisamment de stock pour présenter au Bon Marché. J'étais au premier étage avec 1 mètre carré. Et c'était... j'ai travaillé moi-même avec des amis sur le stand aussi. Et à ce moment-là, peut-être 2 semaines avant Noël, je vois qu'il va y avoir plus de semaines. Et... Pardon, je coupe parce que je n'ai pas du tout raconté Portugal.
Ouais. Tu veux qu'on... qu'on parle du Portugal.
Mais parce que je pense en même temps que tout ça s'est passé, et il est très important un moment, c'est que mon fournisseur me présente aussi un agent et une fabricant pour fabriquer aussi des semelles en Portugal.
Parce qu'en fait, dans l'atelier de Belleville, tu ne pouvais pas tout produire.
C'est voilà. Et à quel moment, lui, il arrivait, mais mon fournisseur était toujours là. Et c'est lui qui me présentait donc la Portugal. Et donc, le Portugal, ils ont fait des semelles aussi pour moi, ce moment-là. Oui, c'est ça. Et donc, pour l'histoire de Bon Marché, 2 semaines avant, j'ai réalisé qu'il n'y a plus de semelles. Et le monsieur qui travaillait, un autre monsieur qui travaillait avec moi à ce moment, je lui dis, on ne va pas avoir assez de temps d'avoir une livraison de la Portugal. Il faut que tout aille. Donc, dans la journée, il est parti en Portugal, et dans le parking à Lisbonne, il y a eu un échange de valises et il a retourné avec 500 paires de semelles pour Noël. C'était la semaine parce qu'on a vraiment eu plu. Ouais. Ça vraiment plu et ça a vraiment marché. Donc, c'était tout en même temps.
Ouais, tout est tombé dessus, quoi.
Oui.
Mais c'est extraordinaire. Enfin, je veux dire, quand ça marche aussi bien, aussi vite. La mise au point a été très longue, parce que ça a pris pratiquement un an.
Ouais.
Mais dès que tu as confronté le produit au marché, ça a pris, ça a plu en tout cas.
Ouais.
Et ça, c'est quand même rare et il faut le souligner. Ouais. Et il y a un autre sujet dont tu parles pas, et quand on avait préparé l'interview, tu m'en avais parlé, c'était que... Enfin, je pense que les gens ont compris, mais c'est important de le dire. Il y a toujours eu cette dimension de récupérer des pots qui n'étaient pas forcément viables pour les autres industries. Au tout début, quand tu as fait tes premiers protos, c'était des chutes de peau de mouton laineux. Mais très rapidement aussi, t'es toujours resté focus, tu as toujours récupéré des pots qui avaient des défauts et qui n'étaient pas forcément bonnes pour d'autres industries. Enfin, qui n'étaient pas bonnes pour les autres industries. Ce que je veux dire, c'est que elles avaient un petit défaut et on pouvait pas faire des grandes pièces avec. Et donc, il fallait choisir, faire des petites pièces dedans, c'était viable. Alors que faire un manteau avec, c'était pas forcément viable. C'était
exactement. T'as-tu compris? Oui, c'est vrai que les pots, en fait, c'est dans un sens déchets. Donc, on récupère, en fait, au début, oui, c'était des chutes que j'ai récupérées chez Inès et Marachel. Et après, mon fournisseur que j'ai rencontré grâce à Inès et Marachel m'a présenté donc son showroom et j'ai vu toutes les pots, en fait, des stocks, des pots qui... Pas forcément, c'est pas les mêmes couleurs, c'est, il y a un mélange des choses. Donc, au début, j'ai tapé dedans. J'ai utilisé des choses qui, lui, il a pas forcément eu besoin. Et ça s'est commencé vraiment sur des stocks de pots restants de les grandes maisons de luxe. Ce qui est des grandes maisons de luxe, c'était ses clients. Mais après, c'est vrai que, après, quand il y a des commandes avec des couleurs spécifiques, c'est là où ça devenir compliqué. Et moi, j'ai toujours voulu de rester sur ce truc de sustainable, de peaux un peu recyclées, peut-être
dead stock, ouais.
Ou d'utiliser des peaux peut-être avec un petit problème. C'était vraiment mon challenge. Et c'était pas intéressant d'utiliser des peaux magnifiques. Donc, j'ai cherché donc, dans la usine de mon fournisseur. Il me montrait toutes les peaux avec des petits problèmes. Et avec Toasties et des petits produits, on pouvait couper autour. Donc, même aujourd'hui, j'ai fait tout pour toujours garder une partie de mes peaux comme ça. Avec des semelles, on coupe autour. Avec des semelles, ce n'est pas un problème sur le côté cuir. Donc, on n'a pas besoin d'une jolie finition. S'il y a des petits défauts de l'animal, ce n'est pas grave. On contre-colle.
S'il a une cicatrice à cause d'un barbelé, ce n'est pas très grave. Parce que de toute façon, c'est contre-collé avec le liège.
Oui. Donc, on contre-colle et on fait au mieux. Mais tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est un énorme travail de tri. Et qu'aujourd'hui, je pense, je n'explique pas assez parce qu'on passe notre temps de trier les peaux et de dire, OK, ça, c'est pour des bananes, ça, c'est pour les bandanas, ça, c'est pour les semelles, ça, c'est pour les cagoules, la laine est les plus épais, le cuir est bien. C'est on trie et on fait des catégories. Mais ça reste la même matière. C'est juste que, comme c'est naturel, chacun est unique. Chaque peau est unique et il faut trouver le potentiel de ce peau. C'est comme ça.
Très bien. Alors raconte-nous un petit peu. Donc là, t'es vendu au bon marché, t'es vendu dans plus de 15 boutiques. Comment tu continues le développement de l'entreprise? Parce que ça fait 2015, donc ça va faire... 3-4 ans maintenant, ça fait 4 ans. Raconte-nous les différentes étapes qui se sont passées, les milestones, comme j'aime bien dire.
Yeah, key points. Donc après Bon Marché, donc là on arrive en 2017. Et je vois donc que ça a très bien pris Bon Marché et j'ai des très bonnes... résultat après les 4 produits, mais je comprends aussi, il faut j'ai envie de faire d'autres produits aussi pratiques, créer d'autres produits aussi pratiques et toujours avec ce côté fonctionnel qui était pour moi une grande mentor was pour moi j'ai toujours besoin de ce besoin de fonctionnalité dans le produit. Donc, 2017, j'ai voulu de présenter donc, à la nouvelle salon, donc première classe encore en fin janvier pour collection d'hiver. Et je retourne donc, à l'atelier Belleville et jour et nuit, on crée des nouveaux pièces pour enfants. Des mini moufles, des petits bonnets bébés, des gilets. Là, il y a l'idée de la banane, la cagoule, la bandana.
Toujours en peau.
Toujours en peau. Toujours en peau. Et toujours avec des. Je pense, enfin, ce sont des classiques aussi. Des cagoules, c'est un classique. La banane, on a refait déjà plein de fois. Mais voilà, j'ai cherché toujours ce côté pratique. Et à la fin aussi, je pense que c'est un peu l'année 80. Les pièces sont assez 80. La bob que j'ai fait maintenant pour cet hiver. Donc là, on crée toutes les nouvelles pièces. Et je présente donc à ce deuxième salon... ça s'est repris très très fort et mais par contre là après ce salon ça a pris tellement fort, j'ai appelé encore des amis qui étaient toujours là pour moi, ma famille était pas là mais mes amis ils étaient là. Et ils ont venu, ils ont m'aidé, il y a eu des clients qui ont fait les queues, c'était vraiment magique. Et après ce salon avec plus que 60 commandes, je réalise qu'il faut peut-être arrêter mon travail chez Majestic Filature, ouais. Que je réalise que c'est quelque chose. Là, j'ai en train de vraiment créer ma marque. Boîte, ouais. Et ma boîte, donc je focus sur ça et voilà, il y a toutes les choses qui tombent après le salon. Comment je vais fabriquer, comment je vais acheter la matière, comment je vais faire pour acheter la matière. Il y a tellement de choses à faire en même temps et je ne savais pas comment commencer. Donc honnêtement, moi vraiment j'étais tellement passionnée juste de la produit et la matière que je pense que j'ai eu cette vision de très artisanale. Et je n'ai pas regardé toutes les autres choses autour. Et peut-être si je savais comment c'est how it would be so hard and what I had to do.
Ouais. Si ça avait été aussi dur et tout ce que tu devais faire.
Voilà, il y a tous les côtés, l'administration, les négociations, les gestions, la production, les fournisseurs.
Ouais, c'est énorme.
C'est énorme. Et tout ça en français, que je ne maîtrisais pas, vraiment. Qu'est-ce que tu fais? J'ai appelé mes amis. J'ai eu des amis qui ont m'aidé. Et de faire voilà, les photos, la lookbook, de répondre à des emails. Je pense qu'il y a plusieurs marques qui passent par la même étape. Tu appelles tes potes. Et puis, lentement, je pense plus tard, quand j'ai un petit moyen, j'ai commencé un petit peu d'investir dans la presse, avec une agence de presse et avec la com, parce que c'est you have to. Mais pour livrer tous ces clients en 2017, je te dis pas comment c'était dur. Et c'est là où j'ai travaillé beaucoup avec les Portugais pour fabriquer des semelles parce que là j'ai passé des quantités énormes. Je pouvais pas fabriquer moi-même. On a continué de faire tous les autres produits. Toutes les autres produits à Paris, à Belleville. Et des petites pochettes ou des moufles aussi, on a commencé à faire en Portugal. Donc, j'ai eu la chance d'avoir ce contact aussi là-bas et d'arriver avec des délais. C'était un peu par chance, mais je ne lâchais pas. Je ne me suis pas lâchée. I fought. Et je me suis entraînée en même temps la français et j'ai appris la business en faisant.
That's the only way, non? C'est le seul moyen de...
Yeah.
C'est en faisant qu'on apprend.
Yeah.
Où est-ce que tu veux emmener Toasties? C'est quoi ta vision pour Toasties dans les années qui viennent?
j'aimerais bien d'ouvrir une boutique un jour. Je pense qu'aujourd'hui, je ne suis pas prête vraiment pour ouvrir une boutique, mais c'est une envie. J'aimerais bien. Donc, j'espère que, comme tout pour Toasties, ça tombe à le bon moment, avec le bon récompte. Ça, c'est sûr que c'est quelque chose que je souhaite réaliser dans la future pour Toasties. Et c'est assez cool parce que j'ai eu une opportunité là qui est tombée là pour avoir de tester un peu cette envie d'avoir une boutique. Et donc il y a je vais avoir pour Toasties une pop-up store pour le mois de décembre, toute la mois de décembre et peut-être une partie de janvier pour Noël.
Trop bien.
Donc, c'est à côté, dans le 10e, vers rue Langris et rue Château d'Eau.
Trop bien. Eh bien, bravo, félicitations. Alors, on ira te voir.
Merci. J'ai aussi... c'est vrai que j'ai envie d'amener Toasties. Aujourd'hui, ce sont des accessoires fonctionnels, maintenant. Mais aussi, j'ai envie d'aller aussi dans le milieu de la déco, de lifestyle. Ouais. Parce que En fait, c'est une marque qui se vit et qui accompagne la vie quotidienne. Voilà.
Et quand on achète un produit Toasties, en plus de la praticité et du produit, qui est très cool, qu'est-ce qu'on achète ?
Qu'est-ce qu'on achète comme produit qu'on achète chez Toasties ?
Ouais, non, ma question, elle est... C'est un peu une sous-question, mais c'est de dire, ok, c'est quoi les valeurs, c'est quoi l'ADN de Toasties, qu'est-ce qu'on achète en plus du produit, quoi.
Bah, déjà, on achète un produit, donc un naturel produit, durable. C'est quelque chose qui a une vie. It lasts forever. Les génies dans l'histoire, c'est le mouton, ouais. C'est la matière, la qualité. Donc, le couleur, ça nous attire. Le confort, il est doux. Et c'est vrai que c'est intéressant, le DNA de Toasties, parce que, en fait, quand j'ai créé Toasties, au début, j'ai trouvé donc, le produit, des accessoires pratiques. J'ai trouvé les produits et la semelle. Au début, j'ai trouvé le nom, Toasties. Pourquoi Toasties ? D'ailleurs, c'était simplement comme du toast dans des baskets et des pains chauds. Mais comme j'étais pas française, ouais. Et je voulais aussi... en fait, quand j'étais pas française, c'était pas ma langue. J'ai eu besoin de poser des mots. Et des mots qui sont importants pour moi. Et que je peux toujours me souvenir de qu'est-ce que c'est Toasties. J'ai une note toujours dans ma téléphone.
Ah ouais, vas-y, montre-moi, c'est quoi.
Et c'est spontanéité.
Spontanéité.
Joyeux. Coloré. Soleil. Nature. Confort. Pratique. Pop. Qualité. Quotidien. Durable. Musique. La danse, le mouvement, le toucher, les sensations, et aussi le down to earth, l'approche très down to earth.
Terre à terre.
Oui.
Et si tu devais en garder que trois, ça serait quoi ?
Trois, j'aurais choisi joyeux, confort et pratique.
Excellent.
C'était important pour moi de poser ces mots et je peux revenir tout le temps en fait de réécrire quelque chose en français comme je n'étais pas française. C'était important d'expliquer bien ma produit, ma marque aux gens et aux clients.
Et c'est quelque chose que tu utilises au quotidien, j'imagine, ces mots-là, cette liste. C'est comme si tout ce que tu faisais, tu le passes au filtre de ces mots-là, c'est ça ?
Oui, it reminds me of what is Toasties for me and pourquoi j'ai créé ce produit.
Très bien. Dans toute ton aventure, non, j'ai une autre question. Qu'est-ce que tu ferais si tu ne faisais pas Toasties ?
La cuisine.
Tu cuisines bien ?
J'adore cuisiner. La cuisine, je pense, ou alors peut-être d'être une fleuriste. Peut-être aussi coiffeur, je sais pas, mais quelque chose de manuel. Et j'adore aussi. Oui, je pense aussi, ça me plaît aussi d'être prof aussi, de
transmettre
aux gens.
Voilà. Et si Toasties était à refaire, qu'est-ce que tu ferais différemment ?
J'aurais rien changé. Vraiment.
Ah ouais ?
Oui, parce que je pense que c'est avec tous les challenges et difficultés et la langue et... C'est ça qui est Toasties. C'est le mélange de toutes ces choses qui a créé pour moi que j'ai créé Toasties.
Qu'est-ce qu'est-ce qui t'inspire, toi? Comment tu t'inspires quand tu, mm-hmm. Quand tu crées un produit pour Toasties et quand tu as créé Toasties, tu t'inspirais de quoi?
S'il y a trois choses qui m'inspirent pour Toasties, je pense que c'est le voyage, la musique et la danse. C'est le voyage, c'est les découvertes, découvrir des choses, les couleurs, les gens, la rue, la musique. Aussi, j'ai grandi avec des Beatles, Bob Dylan, Whitney Houston. Et musique, c'est les power, c'est the energy. Comme la danse pour moi, the rhythm and ces sensations aussi de vivre et d'être libre. Je fais les danses africaines et c'est le moment dans mon semaine, en fait, c'est lâche et prise. J'adore, ça me donne énormément d'inspiration et d'énergie et de la joie de la vie.
On va faire de la danse africaine, oui. Alors.
Ouais, viens. C'est républicain. Ça s'appelle One Step.
Ouais, d'accord. Et les hommes ont droit d'y aller aussi. Ouais.
Bien sûr, à tout le monde, hein. En fait, il y a tous les âges.
Ouais. Et il y a des hommes.
Oui, il y a des hommes de 80 ans. Donc même, okay. C'est pour tout le monde.
Parfait. Et j'ai une autre question, sauf si tu voulais peut-être continuer. Mais t'as l'air d'être quelqu'un de très optimiste. Est-ce qu'il t'arrive d'avoir des doutes quand même et d'être un petit peu down?
Yes.
Et comment tu fais pour passer ces moments difficiles?
Oui, j'ai des moments down comme tout le monde. Je pense que j'ai des stress overload parfois quand tu te tombes au même moment. Et donc, la danse, par exemple, ça me calme. J'arrive de me lâcher. Et après, j'arrive aussi de me calmer moi-même. Je pense avec toujours de me souvenir pourquoi je suis là et je suis quelqu'un qui, même quand il y a des grands obstacles et challenges, ça me donne plus envie d'arriver. Je fonce. En fait, c'est peut-être très bizarre, mais...
C'est motivant.
Motivant. Je suis toujours... oui, c'est la danse qui me donne... Les envies, comment on dit, la motivation, and I have un incroyable soutien aussi de famille qui sont là pour moi quand c'est dur, des amis et bien sûr en Toasties, un mari aussi et surtout aussi les partenaires parce que en fait c'est des fournisseurs, on est très petit aussi chez Toasties, mais in-house, on est petit, mais on travaille beaucoup avec plusieurs fournisseurs et artisans. Et c'est comme un team, Toasties. C'est pas un fournisseur, c'est plus comme un partenaire. Parce qu'on se soutient chacun. Et je pense que c'est ça aussi qui me donne le motivation and the optimistic because I know I have good people autour et qui ont les courage aussi.
Et aujourd'hui, vous êtes plus, enfin, t'es plus toute seule dans Toasties, vous êtes plusieurs.
Oui.
T'as recruté des collaborateurs.
Oui, voilà.
Comment t'as recruté des collaborateurs et comment on apprend à manager finalement quand on n'a jamais managé qui que ce soit dans sa carrière?
Pas on apprend en faisant parce que. Franchement, management, c'est super compliqué. Comme on n'est pas beaucoup, c'est pas trop dur, ça. Comment j'ai recruté? Ben, en fait, on est trois. Et ça s'arrivait aussi naturellement avec des bons rencontres. Par Echo, il est toujours là avec moi, qui est la personne qui m'aidait de réaliser tous les produits. Mais... J'ai aussi eu, je pense aussi, dans l'histoire, j'ai pas dit, mais il y a aussi une association, ADC, Ordelier de cuir,
bien sûr, ouais,
qui me soutenue. Puis j'avais fait un business plan très difficilement
pour
PIE, exactement. Et aussi, ces entreprises m'ont beaucoup aidé aussi et permis aussi d'avoir les finances aussi de ensuite embaucher. Et aussi d'avoir un soutien quand j'ai des questions, besoin des conseils.
Ouais, on a de la chance en France, on a quand même pas mal de gens qui peuvent t'accompagner et t'aider,
ouais,
à la fois sur le financement, mais aussi sur l'organisation, etc. ADC, au-delà du cuir. Une autre question, la dimension de sustainability, je sais que c'est quelque chose qui te tient vraiment à cœur. Et quand on fait du cuir, c'est un vrai sujet, surtout aujourd'hui, on en parle quand même beaucoup. Qu'est-ce que tu réponds, toi, aux gens qui te disent tu utilises du cuir, alors je pense que souvent dans le cuir on dit que c'est des déchets, quoi qu'il arrive, il faut l'utiliser au lieu de le jeter, etc. Quel est ton ressenti par rapport à ça, parce que tout ton business il est sur le cuir et sur la peau de nuque.
Oui. Oui, je suis anti-plastique et les peaux, ce sont des déchets. Donc, en fait, l'animal, donc le mouton, on l'utilise pour la raison alimentaire. Le cuir, les peaux, ils sont récupérés par les tanneries. Et donc, c'est une façon, c'est un cycle. On récupère quelque chose et on donne une nouvelle vie. Donc, moi, je trouve que c'est sustainable and it's... Il y a ce côté fonctionnel et durable qui me parle toujours. C'est naturel, c'est un process naturel et le peau aussi, ça, c'est durable parce que c'est pendant longtemps que ça vit. Ça ne va pas casser comme c'est naturel. Bon, voilà.
Trop bien. Alors, je pense qu'on arrive à la fin de notre interview, sauf si tu as des choses à rajouter. Tu penses qu'on a loupé des épisodes, qu'on... T'as dit tout ce que tu voulais dire?
Ouais, je pense, Adrien. Je pense qu'il y a plein de choses à dire encore. Et on ne peut pas tout expliquer comme ça. Mais non, je pense qu'on a très bien discuté.
Très bien. Eh bien, écoute, je vais te poser mes questions de la fin habituelles. C'est quel est ton mantra?
Faire avec le cœur et ne pas avoir peur. Fonce.
Si tu avais l'opportunité de glisser un mot à Maria quand elle était encore en Australie, vers 17-18 ans, et qu'elle allait s'apprêter à partir en France pour son programme d'échange, qu'est-ce que tu lui dirais?
Je pense que j'aurais dirais tout le temps continue à pouvoir donner de la joie et de conserver, de le garder et de toujours avoir ce transmission de donner ce joie.
Et dernière question, c'est qui souhaiterais-tu entendre dans ce podcast?
Moi, j'aimerais bien entendre le parcours de Valentine Jurez Despointe. J'espère que j'ai bien prononcé son nom. C'est une artiste de cuir et elle travaille... j'ai découvert son travail il n'y a pas longtemps, mais elle travaille les chutes. Elle récupère les chutes de cuir et fait des très très beaux tableaux et très beaux pièces avec
collage.
Oui, collage.
Très bien. Eh bien, écoute, j'irai la rencontrer avec grand plaisir. Écoute, merci infiniment. J'ai passé un super moment. Je suis ravi de t'avoir rencontré. On ne se connaissait pas avant. Et j'espère qu'on aura l'occasion de se revoir à nouveau. Et je te souhaite beaucoup de chance dans l'aventure Toasties et dans ta vie personnelle. Voilà.
Merci beaucoup, Adrien. Merci pour tout et bon courage aussi pour tout. J'adore qu'est-ce que tu fais.
Merci, à bientôt.
Au revoir.
Ciao.
Merci d'avoir écouté Entreprendre dans la mode. Si l'épisode vous a plu, je vous invite à laisser un message aux invités directement sur leurs réseaux sociaux pour les remercier de leurs bons conseils et de leur générosité. C'est très important pour montrer que Entreprendre dans la mode est vraiment écouté. Tout aussi important, abonnez-vous au podcast et laissez un avis sur Apple Podcasts ou iTunes, 5 étoiles de préférence, car ça permet à Entreprendre dans la mode de rester en haut du classement et d'être donc découvert par de plus en plus de gens. Et surtout, ça me motive à faire de meilleures interviews. Enfin, pour ne rien rater de l'actualité de Entreprendre dans la mode, vous pouvez me suivre sur Instagram en cherchant Entreprendre dans la mode. Merci de soutenir ce podcast et à mardi prochain pour un nouvel épisode.